Il est 8h.
Le pape François en Irak, c'est un signal à notre gouvernement. Ça veut dire prenez soin de nous. Le Saint-Père est derrière nous.
Le pape François en pèlerinage sur les traces d'Abraham, c'est historique. Ça commence aujourd'hui et Europe 1 est sur place, en Irak. L'Union Européenne a décidé de montrer les dents face à AstraZeneca. Pour la première fois, un pays membre bloque l'exportation de doses produites sur son sol. Et puis, ce sont des millions d'euros qui pourraient être collectés ce week-end en faveur de Médecins du Monde. Grâce à quoi ? Grâce à des jeux vidéo. Juste après ce journal, l'interview politique, Sonia Mabrouk. Bonjour Sonia.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous. Des promesses, encore et toujours, des promesses d'accélération de la vaccination formulées hier par le Premier ministre. Mais est-on sûr d'avoir les doses en temps et en heure ? Réponse d'Agnès Pannier-Runacher, ministre en charge de la logistique des vaccins. Rendez-vous 8h15.
Très bon réveil à toutes et à tous. Vous écoutez Europe 1.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Le journal de 8 heures. Bonjour Rémi Bossaon.
Bonjour Mathieu, bonjour à toutes et à tous. C'est une page d'histoire qui va s'écrire aujourd'hui. Pour la première fois, un pape va poser les pieds en Mésopotamie, entre le Tigre et l'Euphrate, le berceau du christianisme, dans cette terre que l'on appelle aujourd'hui l'Irak. Et cet événement, Europe 1 va y assister avec vous, Jean-Sébastien Soldaini. Bonjour.
Bonjour.
Jean-Sébastien, vous êtes sur place en Irak depuis une semaine. Vous êtes allé à la rencontre des chrétiens d'Orient, ces hommes, ces femmes dont on sait qu'ils ont été persécutés par l'État islamique. Aujourd'hui, ils sont revenus sur ces terres que va visiter le pape et ils vivent leur religion au plus proche des origines.
Ce que vous entendez là, c'est le Notre Père en langue syriaque et en araméen, la langue du Christ qu'ils utilisent dans des messes intégralement chantées chaque jour, matin et soir. Pour les paroissiens de Saint-Joseph à Karakoche, ça se passe au sous-sol. Leur église est en train d'être reconstruite juste au-dessus de leur tête. Ils ne font pas ça pour se cacher, ils sont revenus sans aucune peur. Mais le Père Amar admet que la haine imprégnée par Daesh persiste chez certains.
Parfois, vous croisez des gens qui pensent comme au temps de l'État islamique. Une fois, nous voulions faire des copies de photos chez un imprimeur et quand il a vu la croix sur les images, il a dit « je ne le ferai pas ». Leur idéologie n'est pas morte.
Malgré ça, ils sont 400 000 chrétiens à vivre ici. 40% des personnes chassées par Daesh seraient revenues dans leur ville d'origine. C'est le choix d'Ouhé pour rester aux sources de sa religion, pour ne pas, dit-il, abandonner le berceau du christianisme.
Je ne crois pas en la façon dont les Européens vivent leur foi. Nous sommes le cœur de la foi. Nous sommes plus conservateurs et mieux connectés à notre religion. En Europe, les églises catholiques sont vides le dimanche. Pas chez nous.
Beaucoup sont revenus à Karakoche, ville 99% chrétienne, moins à Mossoul qui ne compte qu'une centaine de familles.
Mossoul, c'est LA ville symbole des atrocités commises par Daesh. Jean-Sébastien, est-ce que les chrétiens sont encore rejetés dans cette ville ?
Eh bien, il y aurait là encore de mauvais esprits, mais les personnes que j'ai rencontrées souhaitent ardemment le retour des chrétiens. Et ça, dans le quartier même où Abou Bakr al-Baghdadi a proclamé son califat, ce commerçant les attend avec impatience.
Mossoul ne renaîtra complètement qu'avec les chrétiens. Sans eux, cette ville n'est rien. Ils y seront en sécurité. Je leur dis donc, revenez, on se relèvera ensemble. Aujourd'hui, notre activité ne tourne qu'à 40%.
Le maire de la ville lance le même appel. Mossoul n'est pas un endroit réservé à l'islam, a-t-il dit. Il y a un vrai besoin, vous l'avez entendu, aussi pour des raisons économiques.
Et Jean-Sébastien, on imagine que ces chrétiens d'Irak attendent avec une grande impatience de voir arriver le pape. Qu'est-ce qu'ils attendent de cette visite ?
Il y a une attente spirituelle, évidemment, les conforter dans leur foi, dans leur choix de revenir sur place, mais pas seulement. Issa espère que le pape vient aussi pour rappeler certaines choses aux dirigeants du pays.
Le pape François en Irak, c'est un signal à notre gouvernement. Ça veut dire prenez soin de nous. Avec cette visite, on va s'intéresser à nous parce que quelqu'un d'important, le Saint-Père, est derrière nous.
Car leur vrai souci aujourd'hui, ce n'est pas tant l'exercice de leur religion, c'est le manque d'emploi, de formation. Ils ont le sentiment d'avoir fait un sacrifice en rentrant pour relancer le pays sans forcément avoir reçu de reconnaissance pour ça.
Merci Jean-Sébastien Soldaini, vous étiez donc ce matin en Irak pour Europe 1 avant cette visite historique du pape François.
Et retenez bien ce que me disait le frère Olivier Pouquillon depuis l'Irak il y a une quinzaine de minutes. Mossoul avant Daesh pour ses habitants, c'est la diversité, une diversité qui est associée à la prospérité. On va suivre évidemment. Merci encore Jean-Sébastien Soldaini. C'est une arme utilisée pour la première fois et elle fait beaucoup de bruit.
L'Union Européenne a dégainé le blocage de l'exportation de vaccins. Concrètement, ce sont 250 000 doses qui n'ont interdit interdit de quitter le sol italien alors qu'elle devait rejoindre l'Australie. Isabelle Horry, la décision a été prise par Rome avec l'appui de Bruxelles qui voulait frapper fort.
Oui, et c'est tout sauf un hasard si c'est contre AstraZeneca. Le géant anglo-suédois met les nerfs des 27 à vif parce qu'il ne tient pas ses engagements. Il devait leur livrer plus de 100 millions de doses au premier trimestre, ça sera seulement 40 et les explications des dirigeants de l'entreprise n'ont pas du tout convaincu. L'Italie a donc décidé de passer aux actes et de bloquer des doses mises en bouteille dans une usine proche de Rome. Une décision que le nouveau Premier ministre Mario Draghi a pris en accord avec la Commission européenne et en tenant ses partenaires, dont la France, au courant. Si nous n'avions pas agi, tout le monde aurait pensé que l'Europe n'a pas de dents, justifie une source européenne. Bruxelles se défend de tentations protectionnistes. Depuis janvier, plus de 170 demandes d'exportation déposées par Pfizer ont, elles, été validées. Nous n'avons pas l'intention de nous en prendre aux entreprises qui, elles, respectent leurs engagements, explique un diplomate. La décision contre AstraZeneca tombe en tout cas à pic. Elle ôte un peu de pression sur les épaules des dirigeants européens, critiqués pour la lenteur de la vaccination sur le continent.
Merci Isabelle Horry, correspondante d'Europe 1 à Bruxelles.
En France, la campagne vaccinale doit accélérer. C'est la volonté affichée par le gouvernement.
Vacciner plus pour confiner moins, c'est la philosophie exposée hier par Jean Castex. 23 départements sous surveillance renforcée vont recevoir 135 000 nouvelles doses, mais un seul sera confiné le week-end, le Pas-de-Calais, à partir de ce soir. Cette stratégie, c'est donc celle du gouvernement, mais c'est aussi et peut-être avant tout celle d'Emmanuel Macron qui tente visiblement de distinguer un horizon à travers la brume de l'épidémie. Jean-Rémy Baudot.
Oui, à son agenda, le Covid tient encore une place prépondérante, conseil de défense, réunion vaccin, diverses consultations. Pour autant, Emmanuel Macron se projette déjà dans l'après, comme s'il enjambait la fin de la crise. Si les efforts des uns et des autres persistent, on pourra effectivement basculer dans autre chose, se prend à rêver un conseiller à l'Élysée. Voilà pourquoi Emmanuel Macron a installé en début de semaine l'idée d'un retour à la normale en avril. Voilà aussi pourquoi il multiplie les réunions sur la relance, sur les projets plus lointains, comme ce matin quand il recevra le délégué interministériel pour Paris 2024. Le chef de l'État espère faire des JO un outil d'attractivité post-Covid. Le jour où nous aurons endigué le virus, il faudra que nous soyons plus forts, avait confié le président il y a quelques semaines. Il y a une volonté de donner un horizon, confirme son entourage. Emmanuel Macron qui affiche donc des ambitions qui dépassent la simple gestion de crise, un horizon pour le pays comme pour lui-même à 13 mois de la présidentielle.
Merci Jean-Rémy Baudot, le président français qui veut visiblement ménager ses concitoyens, ce qui n'est pas le cas visiblement de son homologue brésilien Jair Bolsonaro, très remonté contre ceux qui osent prendre des mesures pour endiguer l'épidémie.
Chega de frescura et de mimimi.
Arrêtez de vous plaindre et de pleurnicher. Combien de temps allez-vous continuer à pleurer? Où ira le Brésil si nous arrêtons tout? Jair Bolsonaro qui s'en prend au particulier aux maires comme celui de Rio qui ont pris des mesures restrictives alors que le pays vit sa semaine la plus meurtrière depuis le début de la pandémie. Le cap des 260 000 morts a été franchi.
Restez bien sur Europe 1 dans un tout petit instant. Nous allons vous raconter le monde qui change dans la collecte de dons. Les joueurs de jeux vidéo s'associent pour soutenir Médecins du Monde. Et ça peut rapporter très gros. A tout de suite.
Europe Matin, le 7-9. Mathieu Béliard.
8h10 sur Europe 1, la suite du journal. Rémi Bossaron.
C'était l'image de la nuit des dizaines de milliers d'habitants de Nouvelle-Calédonie, de Nouvelle-Zélande et du Vanuatu qui fuyaient vers l'intérieur des terres après une alerte au tsunami. Plus de peur que de mal pour eux. Finalement, le séisme enregistré près des îles Kermadec dans le Pacifique n'a pas provoqué la vague redoutée et l'alerte a été levée.
Alors que les Restos du Cœur lancent aujourd'hui leur collecte nationale, on en parlait dans le journal de 7h ce matin, une autre collecte d'un nouveau genre va débuter à l'Accor Arena de Paris, ça s'appelle Speedon.
C'est un marathon caritatif de jeux vidéo. Des joueurs vont se relayer jusqu'à dimanche pendant 55 heures exactement en faveur de Médecins du Monde. Ces joueurs, ce sont des stars sur Internet. La dernière fois qu'ils ont fait ça, ça s'appelait The Event et ils avaient collecté 6 millions d'euros pour Amnesty International. C'est un filon très prometteur pour les associations, Clément Le Saffre.
Oui, à tel point que c'est Médecins du Monde qui est à l'initiative de Speedon. Impressionné par la solidarité de la communauté du jeu vidéo lors du The Event, l'ONG a décidé de monter son propre événement caritatif. Jean-Baptiste Matray est le directeur du développement de Médecins du Monde.
On s'est dit qu'effectivement le marché des streamers permettait de toucher des jeunes, une cible qu'on s'est engagée mais qu'on ne touche pas dans nos communications et dans nos appels à dons. Sur les dons ponctuels, nos donateurs sont plutôt âgés et il est important de les rajeunir.
Médecins du Monde a donc donné carte blanche à Mister MV, suivi par 600 000 personnes sur Twitch. C'est sur cette plateforme prisée par les gamers que 50 000 streamers vont se succéder pour terminer le plus vite possible des jeux vidéo, pendant que Mister MV et ses acolytes inciteront les spectateurs à faire des dons.
Les gens pourront donner tout du long, influer un peu sur le parcours du marathon avec des défis spéciaux à lancer aux joueurs. Par exemple, si on atteint 1000 euros après la partie de Pokémon, eh ben, on passe 10 minutes à montrer les bugs les plus improbables du jeu, etc. etc.
Médecins du Monde espère récolter au moins 100 000 euros lors du speedon. En cas de succès, l'événement reviendra l'année prochaine avec, si possible, du public.
Merci Clément Le Saffre.
Des amateurs face à des professionnels, c'est un classique de la Coupe de France de foot qui va se jouer ce week-end, mais avec une dimension particulière.
Dimanche vont s'affronter deux équipes séparées non seulement par plusieurs divisions, mais aussi par plusieurs milliers de kilomètres. Angers, club de Ligue 1, va recevoir le club franciscain venu de Martinique. Les Antillais sont déjà arrivés en métropole. Ils sont à Clairefontaine, dans une bulle sanitaire, à l'abri du virus, mais pas à l'abri du froid auquel ils ne sont pas habitués. Pierre Herbulot.
Bonnet, gants et lycra, les joueurs du club franciscain affrontent la douceur des derniers jours comme le pire des hivers.
On essaie de se donner les moyens pour ne pas avoir trop froid, quoi.
Mais on se sent de mieux en mieux, il faisait un peu froid au début. On commence à s'acclimater.
30 degrés sur les terrains de Fort-de-France, 10 sur celui-ci. Un choc thermique vite oublié face à la perspective pour Sébastien Lepel, électricien, de jouer un match de foot filmé à la télévision face à une équipe professionnelle.
En Martinique, on dirait que c'est la coupe phare, on va dire, parce que ça nous ouvre des portes vers la métropole pour pouvoir nous montrer, quoi. On a tout à gagner et on n'a rien à perdre, quoi.
Lâche le ballon, Kylian !
Plus de stigmates, non plus du décalage horaire sur les visages des joueurs qui travaillent leur remontée de balle. Les installations ultra-modernes de Clairefontaine galvanisent l'équipe de Patrick Cavelan.
Au début, c'était un peu plus difficile parce qu'il fallait s'adapter au temps. Et puis après, lorsqu'on a de telles installations, donc ça ne peut qu'aller pour le mieux. Puis le fait d'avoir les joueurs tous les jours H24, donc c'est intéressant pour nous pour pouvoir travailler sereinement ce match.
Un match déjà historique pour la Martinique. C'est la première fois qu'une équipe de Lille atteint les 16e de finale de la Coupe de France.
Et les 16e de finale de cette Coupe de France, ça commence ce soir, mais il n'y aura pas de choc thermique a priori entre Beauvais et Boulogne-sur-Mer et entre Aubagne et Toulouse.
Il y a des microclimats. Hein.
C'est vrai.
Il y a
vrai,
des petits microclimats. Merci beaucoup Rémi Bossard. C'était le journal de 8h sur Europe 1. Très bon réveil.
Europe 1, Mathieu Béliard.
À 8h13, nous retrouvons Sonia Mabrouk dans un instant avec son invitée Agnès Pannier-Runacher, ministre déléguée chargée de l'industrie. C'est elle qui a la charge de la logistique du déploiement de la vaccination en France. Restez bien sur Europe 1, tout de suite.
Europe Matin, le 7-9. Mathieu Béliard.
8h16 sur Europe 1, l'heure de retrouver Sonia Mabrouk et son invitée ce matin, Agnès Pannier-Runacher, ministre déléguée chargée de l'industrie.
Bienvenue à vous et bonjour Agnès Pannier-Runacher.
Bonjour Sonia Mabrouk.
Le Premier ministre promet donc 10 millions de primo-vaccinés à la mi-avril. Autre promesse, 30 millions d'ici à l'été. Des promesses, mais est-ce que vous avez, Madame la ministre, obtenu des garanties sur les livraisons de doses en temps et en heure ?
En tout cas, j'ai des livraisons en temps et en heure qui permettront de vacciner 10 millions de personnes, donc au total mi-avril, et 30 millions d'ici l'été. Parce que nos commandes nous permettent d'avoir plus de doses que celles qui sont aujourd'hui annoncées et les capacités de production européennes sont cohérentes avec ces livraisons.
On va parler de la production, mais sur les livraisons, ça veut dire, Agnès Pannier-Runacher, que vous disposez de données précises sur le calendrier de fourniture de la part de Pfizer et d'AstraZeneca. Là, je parle du deuxième trimestre 2021.
Je dispose de données précises sur le calendrier de fourniture je dirais mois par mois à ce stade et semaine par semaine pour le mois d'avril. Et donc, j'ai un confort sur les chiffres annoncés par le Premier ministre et surtout, ces chiffres sont crédibles parce qu'ils correspondent à la montée en capacité des sites de production.
Et quels sont ces chiffres de combien de doses seront livrées à l'Union européenne ? Et là, je parle du deuxième trimestre 2021.
Alors, moi, je pense qu'il faut prendre les chiffres français puisque les gens l'ont en tête. Et comme vous le savez, nous sommes une proportion des doses livrées à l'Union européenne. Nous avons eu 7 millions de doses qui ont été livrées en janvier et en février. Et nous en aurons trois fois plus en mars et en avril, donc une vingtaine de millions, et nous allons continuer à augmenter sur cette tendance.
Mars-avril, donc l'inconnu reste le mois de mai, le mois de juin.
Plus les doses sont éloignées en livraison, moins on a, je dirais, de visibilité. Mais si vous prenez les livraisons ne serait-ce que de mars-avril, vous voyez bien qu'on est capable, puisque ça fera un socle et que la production continue à augmenter. Donc chaque mois qui passe, où on est capable d'augmenter les livraisons. Hein. On a doublé les livraisons de février par rapport à janvier. On va continuer à augmenter. Je dis qu'on triple les livraisons mars-avril versus janvier-février. Et donc, ce socle est assuré. Et ensuite, on continue à faire augmenter le nombre de livraisons.
On continue.
C'est aussi lié aux autorisations de mise sur le marché d'un certain nombre de vaccins.
Mais aussi à ce que AstraZeneca, Pfizer notamment, livre bien le nombre de doses prévues à l'UE, alors qu'au premier trimestre, ce ne fut pas le cas, ça n'a pas été le cas.
Alors, si pour BioNTech, je le redis, hein, BioNTech a parfaitement respecté son contrat, il a eu un manque une semaine, mais au total, ils ont livré, ils ont livré plus de doses, et donc je souhaite le dire, et AstraZeneca, au contraire, a eu, et nous en avons beaucoup parlé, un problème de production. Et on voit, le sujet n'est pas d'avoir un problème de livraison, le sujet est d'avoir un problème de production. Et ce problème de production lui a conduit à revoir assez drastiquement ses capacités de livraison. Et donc nous sommes aujourd'hui sur un socle qui est plus bas et sur lequel ils sont en train d'augmenter progressivement.
Oui, mais est-ce qu'il n'y a pas une suspicion, Agnès Pannier-Runacher? Voilà ce qui se passe en Italie. L'Italie vient de bloquer l'exportation de 250 000 doses de vaccins d'AstraZeneca vers l'Australie. Des doses mises en bouteille près de Rome. Donc l'Italie garde en réalité les doses sur son territoire avec l'aval de Bruxelles. Est-ce que c'est un moyen de faire pression sur les labos, sur les entreprises?
Bien sûr que c'est un moyen de faire pression et nous l'utilisons. Hein. Ursula von der Leyen a mis des licences d'exportation, des autorisations d'exportation sur les doses de vaccins parce que ça nous permet, au-delà des discussions classiques que nous pouvons avoir avec AstraZeneca, d'obtenir qu'ils reconvergent vers le contrat initial.
Vous avez bien des doutes?
Non, j'ai pas des doutes sur le socle qui est annoncé, puisque ce socle correspond à leur calendrier de livraison. Mais ils ne sont pas encore revenus, au contrat, et donc nous utilisons tous les leviers. Nous, vous savez que nous avons lancé une inspection en janvier du site de production belge, et que nous avons ensuite, sur cette base-là, lancé des inspections dans tous les sites d'enflaconnage qui dépendaient de ce site belge. Nous avons établi qu'il n'y avait pas eu de livraison en dehors de l'Europe depuis ce site belge. Nous avons établi qu'il y avait des difficultés de livraison, de production depuis ce site belge. Mais dans le contrat que nous avons avec AstraZeneca, nous ne sommes pas exclusivement dépendants de ce site. Et donc, rien n'interdit à AstraZeneca de livrer depuis d'autres sites. Et c'est pour ça
c'est
que l'Italie a bien fait de bloquer ses livraisons.
C'est du protectionnisme, il faut l'assumer.
C'est rapport de force et je crois que personne ne reprochera d'installer un rapport de force avec les laboratoires pharmaceutiques. Moi, j'ai trop entendu des gens qui nous disaient « vous n'avez pas été suffisamment directif dans la négociation ». Non, nous faisons respecter un contrat et nous utilisons l'ensemble des leviers à notre disposition, mais nous sommes aussi en contact avec les pays avec lesquels AstraZeneca est en lien contractuel, de façon aussi à faire en sorte que les populations soient vaccinées. Parce qu'il faut avoir un juste chemin. Il faut que toute la planète soit vaccinée.
Oui, mais pendant qu'on se débat justement, par exemple là, avec ce qu'on fait en Italie, la réalité est têtue. Agnès Pannier-Runacher, le Royaume-Uni a un nombre record de vaccinés en Europe. AstraZeneca, pour eux, c'est une fierté nationale en Angleterre. Pourquoi ne pas reconnaître le pari réussi anglais?
Mais je crois qu'on le reconnaît parfaitement. Le Royaume-Uni, sur le vaccin, a effectivement eu une campagne qui est réussie. Comme Israël, on peut le reconnaître. Nous sommes le quatrième ensemble de pays au monde à vacciner. Je le redis parce que le Royaume-Uni, Israël, les États-Unis,
non, mais
l'Europe.
Je parle d'États-nations, je ne parle pas de l'Europe. L'Angleterre.
Le quatrième, c'est l'ensemble des 27 États. Et je peux vous dire que s'il n'y avait pas eu l'Union européenne, vous auriez eu au moins deux tiers, si ce n'est les trois quarts des États européens qui auraient été en grande difficulté parce qu'ils n'auraient pas été en situation de pouvoir négocier des contrats et d'autres avec un risque de génération de variants, de circulation du virus ou suivant les frontières, d'un côté vous avez des doses, de l'autre côté vous n'en avez pas.
Mais ça c'est ainsi, Madame la Ministre,
et
vous ne savez pas.
Et on n'aurait pas eu assez de production.
Mais comment,
parce que ce
comment
qu'a
le
réussi à faire l'Europe, pardon, ce qu'a réussi à faire l'Europe, elle a réussi à organiser des chaînes de production entre pays européens, ce qui permet d'avoir plus de doses aujourd'hui.
Mais attendez, aujourd'hui, plusieurs pays d'Europe centrale ont choisi de se tourner très pragmatiquement vers les vaccins russes ou chinois sans attendre aucune autorisation. Hongrie, Slovaquie, République tchèque et l'Autriche y réfléchit. C'est normal qu'ils pensent à leur population d'abord?
Qu'on pense chacun à nos populations, c'est notre travail. Après, il y a les risques qu'on prend vis-à-vis de cette population. C'est-à-dire, est-ce que chacun est à l'aise à administrer des vaccins qui n'ont pas reçu d'autorisation de mise sur le marché.
Le vaccin russe, selon une étude, est efficace. Il est en train d'être examiné en Europe.
Mais nous ne venons d'obtenir les données que maintenant. Comme vous le savez, le vaccin, les Russes viennent de nous communiquer l'intégralité des données permettant d'analyser leur pertinence que hier ou avant-hier.
Oui, mais est-ce que
très
bien.
Moi, je suis très positive sur ça. Juste un point sur les Russes, parce que c'est important. Les Russes ont vacciné près de deux fois moins de leur population que les Français. Deux fois moins.
Ils nous proposent donc de vacciner problème, 50 millions d'Européens.
Mais où sont les doses ? S'ils n'arrivent même pas à vacciner leur population, où sont les doses ? Je crois qu'il ne faut pas être piégé par des menées géopolitiques qu'on peut comprendre, que la Chine, que la Russie aient envie de montrer qu'eux, ils ont un vaccin. Mais la réalité des chiffres, c'est que la Chine et la Russie ont moins vacciné que les Européens.
Mais madame la ministre, l'Autriche et le Danemark, et là je ne parle pas d'Hongrie ou de Slovaquie, négocient en ce moment avec Israël sur les vaccins de deuxième génération pour lutter contre les éventuelles mutations. En dehors du cadre européen, il a volé en éclats ce cadre.
Je ne crois pas. Parce que justement, il me semble que les Danois et les Autrichiens ont eu un propos beaucoup plus modéré hier sur ce sujet-là. Et surtout, ce cadre... C'est ce cadre-là qui leur fournit aujourd'hui beaucoup de doses. C'est ce cadre-là qui fait que l'Autriche peut bénéficier d'une solidarité particulière.
Pas assez rapidement à leurs yeux. Reconnaissez-le. Pourquoi ils font ça ?
Bah, écoutez, moi je vous le dis très simplement, ils sont revenus en arrière. Ils essayent vis-à-vis de leur opinion publique de justifier des actions complémentaires. Mais la réalité, c'est si demain il n'y a pas d'Union européenne, il n'y a pas de doses en Autriche.
Mais est-ce que les États-nations, madame la ministre...
Et ça, il faut le dire aux Français, il faut le dire aux Européens. Si l'Union européenne n'avait pas été là, il n'y aurait pas eu de doses. Et surtout, ce n'est pas parce que nous n'avons pas eu trop d'Union européenne que nous n'avons pas pu aller
pas
plus loin.
Assez,
c'est parce que
dire.
Nous n'avons pas eu assez d'Union européenne.
Oui, mais est-ce que les États-nations...
L'Union
pas...
européenne n'avait pas, oui. n'avait pas la, les compétences pour faire ce qu'a pu faire
Écoutez-moi,
les États-Unis avec
est-ce
la
vaccination. Est-ce que les États-nations n'en sont pas plus à même à défendre leurs intérêts en matière de santé que la Commission européenne qui a allié quand même des retards conséquents ?
Mais quel retard ?
Aucun retard ? Il n'y a eu aucun retard dans les livraisons ?
Non. Quel retard la Commission européenne a-t-elle eu en plus par rapport aux États-nations ? Qu'est-ce qui prouve que les États-nations, individuellement, auraient fait mieux ? Rien en réalité. Car
si je vous donne l'exemple
pays,
de l'Angleterre.
Oui, mais c'est un pays sur 180.
Pas n'importe lequel.
Moi, je peux vous donner l'exemple des 179 autres pays qui, aujourd'hui, sont en retard. Plus en retard que l'Union européenne. C'est pour ça que l'Union européenne est sans doute un idiot utile qu'on accuse assez facilement. Mais en réalité, pourquoi la France a soutenu l'Union européenne ? Parce que nous, par exemple, en France, nous avions besoin des autres Européens pour produire du vaccin.
En fait,
nous avons des capacités d'embouteillage, d'enflaconnage importantes, mais nous n'avons pas de capacité pour produire le principe actif de l'ARN messager.
Justement,
on
vous
aurait
parlez,
fait quoi ?
Agnès Pannier-Runacher, de ses capacités de production, ou plus précisément en fait, d'enflaconnage, rassurez-nous. Est-ce qu'on a anticipé en France, parce qu'on va commencer chez nous la production ou le conditionnement, est-ce qu'on a assez de flacons, de bouchons, de personnel d'experts pour cela ?
Alors, nous sommes en train de travailler dessus. D'abord, on a anticipé, puisque dès le mois de juin, nous avons lancé avec Olivier Véran un appel à projet pour financer ces lignes de production. Et comme vous le savez, une usine de vaccins, ça prend du temps. Je crois que Nicolas Canteloup le disait tout à l'heure.
Oui,
malheureusement,
expert
il suffit
en
pas...
enflaconnage de vaccins
voilà,
bien connus.
Il ne suffit pas d'être dans sa cuisine et de tourner la recette de cuisine. Ça prend du temps et ça prend en temps normal 24 à 30 mois. Là, on l'a fait en 9 mois, 10 mois, 11 mois. Et ces aides que nous avons données permettent aujourd'hui à trois sociétés implantées en France, à trois sites français, de démarrer la production en mars, en avril et probablement en mai, puisque ça dépend d'une autorisation de mise sur le marché. Donc on va dire mai-juin. Et Sanofi, par ailleurs, a pris sur lui de produire pour deux de ses concurrents une partie en France, pour Johnson & Johnson, et une partie en Allemagne, à proximité du site de production de BioNTech, puisque comme vous le savez, c'est une logistique à moins 80 degrés, donc il ne faut pas trop que ça se déplace.
La production, en tout cas le conditionnement, démarre en France, et on verra mise sous tension, en tous les cas, de ces différents éléments. On va demander l'avis de Nicolas Canteloup, aussi ce qu'il en pense. Merci Agnès Pannier-Runacher d'avoir été notre invitée ce matin. Bonne journée à vous et à
Merci
nos auditeurs.
Merci beaucoup.
Merci Sonia Mabrouk, 8h28, dans 20 minutes, Nicolas Canteloup, mais d'abord l'info, la météo, à tout de suite.
Matin, le 7-9. Mathieu Béliard.
8h30 sur Europe 1, un nouveau point sur l'info avec Théo Manval.
Jean Castex et Gérald Darmanin attendus à Beauvais ce matin à la rencontre des policiers après deux nuits de violence en début de semaine. Trois agents ont été blessés dans des affrontements sur fond de lutte contre le trafic de drogue. La maire d'Hiver Droite, Caroline Cailleux, demande des renforts.
Dimanche soir et lundi, les policiers sont tombés un peu dans des guet-apens avec une trentaine de personnes qui les ont agressés. C'est une bande d'énergumènes qui était très remontée contre la police parce qu'ils sont en train de mener des opérations anti-drogue, anti-deal et qu'ils harcèlent évidemment tous ces vendeurs de drogue. Mais ça nous conforte et les quartiers doivent redevenir des quartiers tranquilles. Il manque au moins une vingtaine de policiers pour la ville de Beauvais. Les effectifs aujourd'hui sont incomplets, donc nous attendons beaucoup de ce déplacement ministériel.
La maire de Beauvais, Caroline Cailleux, au micro Europe 1 de Nicolas Feldman, et des renforts devraient en effet être annoncés. Alors qu'à Lyon, 12 personnes ont été interpellées cette nuit après des heurts dans le quartier de la Duchère. Plusieurs voitures ont été incendiées. Des habitants accusent la police d'être à l'origine de l'accident de scooter d'un adolescent mercredi soir. La préfecture dément. Nous avons des livraisons en temps et en heure qui nous permettront de vacciner 30 millions de personnes d'ici l'été. Déclaration à l'instant sur Europe 1 de la secrétaire d'État à l'industrie Agnès Pannier-Runacher. Le gouvernement affiche cet objectif afin d'atteindre un tiers des adultes vaccinés à l'été, soit 10 fois plus de monde qu'aujourd'hui. Et pour augmenter la cadence, les pharmaciens pourront administrer les doses directement dans leurs officines à partir du 15 mars. Le ministre de la Santé écrit lui aujourd'hui à tous les soignants pour leur demander de se faire vacciner contre le Covid, alors que des milliers de patients sont contaminés à l'hôpital. À partir de demain matin 8h, le Pas-de-Calais rejoindra Dunkerque et Nice au rang des zones confinées le week-end. 23 départements au total sont désormais sous surveillance. Les magasins non alimentaires de plus de 10 000 m² vont devoir y fermer, Carole Ferry.
Oui, alors les professionnels craignaient une fermeture des commerces dès 5000 m², comme à Dunkerque et dans les Alpes-Maritimes. Finalement, seul le Pas-de-Calais devra se plier à cette règle. Dans les autres départements à risque, les magasins devront fermer quand ils ont une surface supérieure à 10 000 m² et la différence est loin d'être négligeable. En Ile-de-France, par exemple, 64 magasins sont concernés, des Castorama, Boulanger ou encore le Printemps Nation à Paris, par exemple. Ça aurait été trois fois plus si la barre avait été maintenue à 5000 m². En revanche, il n'y aura pas d'exception pour les commerces dits essentiels. Les magasins de bricolage, d'informatique ou de jardinerie qui avaient pu rester ouverts au premier confinement devront bien baisser leurs rideaux comme les autres. Seule l'alimentation a le droit de rester ouvert. Reste maintenant à négocier les aides qui accompagneront cette décision. La question n'a toujours pas été totalement tranchée pour les commerces de plus de 20 000 m² fermés partout en France depuis un mois.
Carole Ferry du service économie d'Europe 1. Le pape François a décollé de Rome pour la toute première visite pontificale en Irak, berceau de la chrétienté. Il y est attendu dans la journée, il rencontrera des fidèles mais aussi des dirigeants de l'islam chiite. Nouveau tour de vis à Hong Kong, Pékin annonce un contrôle renforcé des candidats aux élections législatives du mois de septembre. Ils devront tous être validés par une instance officielle. La Chine accroît un peu plus sa mainmise sur la région autonome. Enfin en France, le cannabis thérapeutique va pouvoir être testé sur des patients d'ici la fin du mois. Feu vert de l'Agence nationale du médicament. Il y aura 3000 volontaires, uniquement des personnes dont les douleurs ne peuvent pas être soulagées par les médicaments actuels. C'est le cas de Valérie Gisclard. Elle a 53 ans, plusieurs maladies chroniques, dont une leucémie. Et elle est allergique à de nombreux antidouleurs. Jusqu'ici, seule sa force mentale lui a permis de tenir.
En fait, j'ai appris à rehausser le seuil de la douleur. Puisque je suis allergique aux morphiniques, aux opiacés, je suis intolérante XXL à la codéine, donc finalement il commence à plus rester grand chose. Mais il arrive à un moment donné où on a beau avoir un mental, je suis à un moment donné fatiguée, je suis fatiguée de souffrir et il faut bien trouver des solutions. Alors ça peut faire peur parce que quand on entend cannabis, on n'a pas toutes les informations au jour d'aujourd'hui, mais vraiment... Si je vais fumer mon petit joint tranquille avec ma petite plantation à la maison, je risque de me faire plus mal. Donc j'essaye d'être intelligente et de pas détraquer tout ça. L'intérêt, c'est d'être suivie par un médecin, par une équipe pluridisciplinaire de la douleur et qui puisse m'accompagner sur la prise de ce cannabis thérapeutique. Maintenant, j'attends pas non plus un remède miracle, il faut pas non plus... Mais si un patient sur 15 est déjà soulagé, c'est déjà gagné.
L'une des volontaires pour l'expérimentation du cannabis thérapeutique qui démarrera donc d'ici la fin du mois, propos recueillis par Anne Le Gall.
Merci beaucoup Théo Manval, c'était le journal de 8h30 sur Europe 1. 8h35, Laurent Cabrol avec nous pour la météo.
tout de suite.
Allons-y.
Ah bon.
Si vous le voulez. Hein.
Ouais, non, mais moi je veux le.
Sinon on peut discuter un peu. On peut passer un peu de musique aussi.
On y va. Non, on va pas discuter, on va perdre du temps. Entre 9 et 14 degrés sont les températures maximales de la journée. Elles sont en baisse, bien sûr, vous l'avez compris, chers amis, puisque nous avons changé de type de vent. Nous avons maintenant une bise qui vient de Moscou, de la Russie, du pôle. Donc il fait frais. Avec la bise, il fait encore plus froid que les 9 à 14 que j'ai annoncé à l'instant. Alors ne vous fiez pas aux apparences. Sur les côtes de la Manche, il y a pas mal de nuages et même quelques petites pluies. Mais tout ceci va s'en aller, le soleil va s'installer, sous l'effet du vent d'ailleurs. Et puis dans les autres régions, nous aurons des éclaircies sur la région parisienne, le Limousin, le Poitou-Charente, les Pays de la Loire, le sud-ouest, un petit voile d'altitude. Et puis de la pluie sur l'Alsace, la Franche-Comté, la région Rhône-Alpes, l'Auvergne et la Haute-Vallée du Rhône. Toutes ces régions, là, ce sont les seules régions pluvieuses. Demain, tout va entrer dans l'ordre et nous aurons demain un vent fort, autour de 40 à 50, fort même dans les terres, hein, 40 à 50, et un soleil omniprésent. Et puis dimanche, moitié sud, pas mal de nuages, et moitié nord, rayonnant de cette journée de dimanche. Ma foi, c'est un congé de fin de semaine, il s'annonce pas mal, mais il va faire
frais. Beau mais froid. Un pull, quoi. On profite si on peut.
Ouais, doudoune. J'avais dit, il faut pas sortir, il faut pas rentrer, doudoune.
Dans le grenier, là. Ouais, je l'ai gardé. Hein. Elle est prête. Hein. Merci beaucoup, Laurent Cabrol. Je vous écoute, moi, 8h36. Vous restez bien sur Europe 1 dans quelques instants, on prend soin les uns des autres. Vous le savez, notre santé avec le docteur Jimmy Mohamed.
Oui, même si à titre personnel, je n'ai vu aucun résident en EHPAD la fumer, le professeur Raoult a parlé du rôle de la chicha dans l'épidémie de Covid. Et bien ce matin, vous allez voir que la chicha est au moins aussi nocive que la cigarette classique.
Je me demandais où vous alliez. Notre planète avec Fanny Agostini ensuite et Nicolas Canteloup, la revue de presse avant 9h. Très bon réveil à tous.
Europe Matin, le 7-9. Mathieu Béliard.
Europe 1, il est 8h38. Tiens d'Europe 1, c'est le docteur Jimmy Mohamed. Bonjour Jimmy.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
Le professeur Raoult a parlé du risque de contamination important au Covid avec la chicha. Et vous voulez de votre côté rappeler les risques de cette pratique sur notre santé?
Exactement, on appelle ça aussi le narguilé. Alors pour ceux qui ne savent pas, la chicha c'est une pipe à eau qui permet de fumer du tabac. C'est le troisième produit le plus utilisé derrière le tabac à rouler et la cigarette classique. Le problème c'est que ce mode de consommation, plutôt convivial, laisse l'impression de fumer en toute sécurité et que la chicha serait plus saine que fumer une cigarette classique et donc potentiellement moins dangereuse. C'est évidemment faux, ce qui explique malgré tout l'augmentation croissante des utilisateurs. Or, l'OMS est claire, fumer la chicha et la personne exposée à la fumée passive encourent exactement les mêmes maladies pulmonaires, cardiovasculaires et cancers que les fumeurs classiques de cigarettes.
Et en clair, la fumée de la chicha est aussi toxique que celle de la cigarette.
Exactement. Alors, comme toutes les fumées de substances qui brûlent, celle de la chicha libère lors de la combustion environ 4000 substances chimiques qui vont être soit toxiques, irritantes ou cancérigènes. Et puis, il ne vous a pas échappé que la durée de cessation de fumage du chicha est beaucoup plus importante. Lorsque vous fumez une cigarette, elle va être consommée en 8 à 12 bouffées pour une durée environ de 5 minutes. Alors que le narguilé, lui, va être fumé en une cinquantaine de bouffées sur une période qui va aller de 30 minutes à 1 heure. Et puis, écoutez bien, elle va délivrer dans le tabac du monoxyde de carbone, mais l'équivalent de 50 cigarettes en monoxyde de carbone. Et si on prend le goudron, elle va délivrer l'équivalent d'une centaine de cigarettes. Et donc, je vous ai dit que la chicha était dangereuse pour vous, mais elle est aussi dangereuse pour votre entourage, puisque cette fumée va se retrouver dans l'atmosphère, et donc le tabagisme passif va avoir un impact important sur votre santé. Et puis mine de rien, on l'oublie, mais il y a aussi de la nicotine. Deux fois plus de nicotine dans le tabac de la chicha que dans le tabac classique. Et puis mine de rien, le professeur Raoult a raison, quand on fume la chicha, on est dans un lieu clos, on ne porte pas de masque, on n'a pas de distance, on ne met pas forcément un petit embout en plastique pour limiter la contamination. Donc c'est vrai, il faut éviter la chicha en période de Covid. Et d'une façon générale, la chicha, c'est comme l'alcool, c'est à consommer avec modération.
Jimmy Mohamed, notre santé, merci beaucoup Jimmy. Dans son rendez-vous aujourd'hui à 15h avec Mélanie Gomez sur Europe 1, la médecine des enfants.
Exactement, on va recevoir un des pères de la pédiatrie moderne, le professeur Griselli. Il a été patron de l'Inserm, c'est le père des premiers bébés bulles. Il a été aussi à l'origine des pièces jaunes, un CV exceptionnel pour un médecin exceptionnel.
Et pour une émission exceptionnelle ce vendredi, 15h, 16h, sans rendez-vous, Jimmy Mohamed et Mélanie Gomez sur Europe 1. À 8h41, notre planète avec Fanny Agostini. Bonjour Fanny.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
Alors ce matin Fanny, on parle de ces villes européennes qui installent des autoroutes à vélo.
Oui, alors que la plupart des grandes villes de France ont du mal à se débarrasser de la voiture en ville, beaucoup de pays européens sont en train d'intensifier leur politique pour repousser les voitures toujours plus loin de la ville, au point de construire des autoroutes pour les vélos. On est loin, là, de la petite piste cyclable cohabitant avec les pots d'échappement. Dans la ville d'Heidelberg, par exemple, en Allemagne, une ville qui est pionnière du planning urbain durable, les voies exclusivement réservées aux vélos vont de plus en plus loin en banlieue, jusqu'à 30 km de rayon autour du centre ville. L'approche du maire là-bas, ce n'est pas d'aller vers la voiture électrique, il préfère piétoniser à fond et aller chercher les citadins loin dans la banlieue avec ses autoroutes cyclables.
Oui, on allie donc des pénalisations de la voiture à des encouragements à utiliser le vélo.
Oui, c'est ça qui marche le mieux en fait. De plus en plus de villes suivent le modèle de Copenhague. Certes, celle-ci a mis en place une TVA de 100% sur les nouvelles voitures pour décourager leur vente, mais dans un même temps, elle aligne ses feux de circulation sur la vitesse moyenne des vélos plutôt que des voitures. Les poubelles publiques qui sont inclinées pour pouvoir jeter ses déchets tout en roulant. Elle a installé, cette ville, des rampes au croisement pour que tout le monde puisse rester à vélo à l'arrêt. Et puis, il y a les bornes gratuites de pompe à vélo et les vélos trois roues conçus spécialement pour transporter des objets ou des enfants que l'on appelle les vélos cargo. C'est ça finalement une smart city, à tel point que les entreprises s'adaptent, elles incorporent parking de vélo, casier et douche pour permettre à leurs employés de venir de loin à vélo. La douche, ça c'est très important Mathieu, je ne sais pas si vous le saviez, mais l'odeur de transpiration, c'est l'une des premières causes de la réticence des citadins français à utiliser le vélo pour leur migration pendulaire domicile-travail.
Du coup, il faut le prendre en compte, vous avez raison, le nord de l'Europe ne fait pas figure d'exception, le sud s'y met aussi.
Oui, je peux vous donner un exemple. À Pontevedra, en Espagne, le maire de la ville, en poste depuis 4 mandats, a entrepris depuis 20 ans de pousser doucement les voitures vers la sortie. Pour ça, il a rendu le stationnement gratuit à l'extérieur de l'agglomération et l'a rendu très court dans le centre, accompagné d'une amende de tout de même 150 euros en cas de dépassement. En plus de donner la priorité aux piétons en supprimant les trottoirs et en piétonnisant l'essentiel du centre-ville, des panneaux, les Metro Minutos, ont été érigés un peu partout. Ils indiquent les temps de déplacement entre les points d'intérêt de la ville. Et le résultat est sans appel. Il n'y a eu que 3 morts. 3 morts seulement dues aux accidents de la route en 10 ans. La circulation a chuté de 90% en 20 ans et les émissions de gaz à effet de serre de 75%.
Bravo. C'est où, pardon, redites-moi la ville en Espagne ?
Pontevedra, c'est me semble-t-il dans le nord de l'Espagne.
Non, c'est pour ma culture personnelle. Merci Fanny Agostini, Notre Planète, tous les matins, c'est sur Europe 1. 8h44, dans quelques toutes petites secondes, Nicolas Canteloup et Julie qui s'installent, la revue de presque.
Europe Matin, le 7-9, Mathieu Béliard.
8h46, ils sont là, Nicolas Canteloup avec Julie.
C'est presque de l'info, c'est la revue de presque de Nicolas Canteloup. Et c'est à vous Mathieu Béliard pour le principal titre de l'actu.
Oui, bonjour ma chère Julie. Enfin, rebonjour puisqu'on est ensemble dans le studio depuis tout à l'heure. Et oui. Bienvenue sur Europe 1, si vous venez de nous rejoindre. L'actualité, ce sont ces affrontements qui ont lieu hier à Lyon entre la police et des bandes de jeunes, nous le savons.
Ça ne m'étonne pas d'ailleurs.
Ah, bonjour Gérard Collomb.
Oui, bonjour à tous. Ça ne m'étonne pas forcément. Écoutez, franchement, observons la situation. Les jeunes, on les prive de viande dans les cantines de Lyon. Alors forcément, ils se rebellent. Vous savez, quand vous nourrissez des caïds de banlieue avec des haricots verts, des pommes de terre à l'eau et des salsifis, vous leur donnez envie forcément d'aller défoncer la vitrine des McDo. Non, mais franchement, quel con ce nouveau maire écolo. Non. Non, mais écoutez, il ne nous comprend pas, nous, la jeunesse. Voilà. Mais bon, en même temps, il a une excuse. Il n'a pas le même âge que moi.
C'est vrai.
Merci, monsieur Collomb, pour cet éclairage. Et puis, l'autre info, allez, c'est la présidentielle de 2022. Ça rapproche. Et l'exaspération de la majorité face à la position de certains électeurs de gauche qui continuent à dire que pour eux, ce ne sera ni Macron ni Le Pen. C'est vrai, vous avez raison, non, mais ils se foutent un peu du monde, ces électeurs de gauche. Quand ils ont un président de gauche comme moi, un socialiste biberonné à Jean Jaurès et nourri au sein par François Mitterrand. Et ils en veulent pas. Hein, ils sont que 4% à être contents. Ah, ça joue les marxistes exigeants devant les instituts de sondage. Et puis après, quand on est devant l'urne, hein, ça vote pour un banquier à la première occasion.
Pardon.
Bonjour. Pardon, c'est qui ça?
Je ne sais pas si vous vous souvenez de moi, je m'appelle Benoît.
Benoît Hamon.
Je vous entendais avec Thierry parler des électeurs de gauche. Vous êtes sûr qu'il y en a? Parce que moi, on m'en a beaucoup parlé, mais j'en ai jamais vu.
Allez, merci à tous et merci à Mathieu Béliard. Malgré une situation sanitaire toujours préoccupante, Jean Castex a simplement annoncé hier un reconfinement les week-ends dans le Pas-de-Calais. Il faut dire qu'Emmanuel Macron est très clair, il faut éviter le reconfinement général à tout prix. Bonjour, Monsieur le Président.
Oui, bonjour à toutes et à tous. Le reconfinement général, oui, notamment ceux et celles qui habitent dans le Nord, je m'adresse à eux, les ch'tis, les ch'tites, les biloutes et les belettes. Et oui, vous êtes reconfinés, mais je tiens à vous le dire, c'est de votre faute. Ben oui, les autres, ils se sont bien lavé les mains. Voilà, c'est la différence. Avec les ch'tis, on doit tout reprendre à zéro, hein, toutes les bases. Bon, eh bien, on va leur réapprendre à ouvrir les fenêtres. Si, je suis allé chez des ch'tis. On sent que les fenêtres n'ont pas été ouvertes depuis longtemps, je peux vous dire.
Ah ben, il y a le touquet aussi, hein, dans le Pas-de-Calais, c'est ça?
Oui, tout à fait, il y a le touquet.
Hein, le
touquet. Mais ça, c'est pas dans le texte. Donc
non,
vous
non, c'est pas
gueule.
Dans le texte, mais enfin bon.
Non, mais écoutez, Madame Julie, pardonnez votre trivial, mais enfin, enchaînez. On ne touche pas à ma ville du Touquet.
Alors, vous voulez...
Surtout que Brigitte, vous le savez, est Miss Touquet.
Allez, vous voulez...
Comme ça, la volée. Hein. Je suis monté au filet.
Vous voulez éviter le reconfinement général, on l'a dit, et vous voulez 30 millions de vaccinés d'ici juin. Ah, 30 millions, oh là.
Bien, la régie. 30 millions de vaccinés. Oui, mais là, on a 75% des doses qui dorment dans des placards et la moitié des soignants qui veulent pas se faire vacciner. Eh bien non, les soignants, on se sort les doigts. Hein. Vous piquez vos familles, vous piquez la nuit, vous piquez les week-ends, vous faites boire du vaccin à des abeilles et vous les relâchez dans la nature. Je m'en fous, mais vous accélérez la cadence du piquage. Je veux qu'on puisse tout rouvrir avant l'été. Vous savez pourquoi?
Quoi?
Parce que c'est mon projet.
Oh là là, ça le reprend, mon Dieu. Merci, Monsieur le Président. L'exécutif a tapé du poing sur la table hier. Trop de personnel dans les EHPAD refuse de se faire vacciner. On va appeler un EHPAD pour voir comment ça se passe.
Bonjour, maison de retraite des Pétunia de Bordeaux-Mérignac. Christian, la votre écoute, je vous écoute. Ne quittez pas, je vais passer un temps en musique.
Attends, je suis toujours piqué, piqué, piqué. Attends, je suis toujours piqué, piqué, piqué.
Merci à passer un terme musique. Puis-je faire pour vous?
Bonjour Christiane, c'est Julie à Europe 1. Alors dites-moi, est-ce que tout le monde est vacciné dans votre EHPAD?
Oh, Mme Julie! Oh, il y a longtemps!
Ah, ouais,
ça, fait, longtemps. Ah, ça fait plaisir de vous entendre.
Ah,
si, vraiment, chaque fois, c'est un plaisir, chaque fois renouvelé. Écoutez, oui, tous les patients sont vaccinés, du coup, j'ai un peu de temps. Mm-hmm. Alors, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Voulez prendre un rendez-vous pour une piqûre? Ou c'est parce que vous voulez placer M. Cabrol?
Non! Non, c'est pour vous. Est-ce que vous êtes vacciné vous-même?
Moi? Non, merci, c'est gentil. Non, j'ai bien compris que... Non, je ne peux pas vacciner.
Quoi?
J'ai bien compris qu'il n'y a pas de 5G dans les vaccins.
5G dans...
Moi, je le sais, parce qu'on a des patients ici qui ont été vaccinés. On capte toujours aussi mal la télévision ici. Non, ça c'est des fake news, non, c'est des faux espoirs. C'est des faux espoirs, ça, non. Non, le problème, c'est l'efficacité.
Ah, vous avez peur qu'il ne marche pas?
Oh non, au contraire, j'ai peur qu'il marche ce vaccin.
Eh ben alors?
Non, parce que moi, je ne l'ai pas encore eu, le Covid, vous comprenez? Non, ouais, mettez-vous à ma place. Non, parce que moi, je voudrais le Covid. Voilà.
Ah bon?
Ben oui, parce que si j'attrape le virus, mettez-vous à la place. Je reste 3 semaines à la maison, payé, à regarder les feux de l'amour avec le beau Victor Newman. Oh, il est bien ce Victor Newman.
Toujours, hein,
oh, il est bien. Hein.
Ça fait 30 ans.
Alors donc,
il
3 semaines.
Victor Newman,
je crois. Oui. Tout cela, vous vous rendez compte, je passe 3 semaines à la maison tranquille, au lieu de donner à la place, il n'y a pas photo, au lieu de donner de la purée à la petite cuillère, de laver des bassins à longueur de journée, ou de ramasser les dentiers tombés dans le saladier de céleri remoulade du buffet comme hier après. l'après-midi.
Oh
non, non, non. Et tout ça pour combien? Pour 1390 euros par mois? Non, 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 non. Moi, je veux la Covid. Hein. Non, en plus, je suis un peu jalouse. Je vous le dis, tous mes collègues l'ont eu. Il n'y a pas de raison. Moi aussi, je mérite d'être malade quand même à mon âge. En plus, je fais tout pour. Hein. Je peux vous dire, je ne ménage pas mes efforts. Je lèche les petites cuillères qui restent dans les pots de compote.
Oh non.
Et vous savez quoi? Et j'attrape pas. Et je l'attrape
donc,
pas.
Vous êtes solide, moi.
Elle est pas sympa, cette épidémie. Et pour personne.
Merci, ma pauvre Christiane. À bientôt.
Non,
c'est la fin d'un feuilleton judiciaire.
J'ai qu'un branle, quand même. Je mets en liste d'attente.
Allez, Lolo.
Faut pas y aller.
Abandon Mérignac.
Il y a la compote fraise banane. Elle est super.
Allez, c'est la fin d'un feuilleton judiciaire de 25 ans. Édouard Balladur est relaxé dans l'affaire Karachi.
Quoi? Non mais franchement, j'ai appris, je sais, je fais le gars qui est surpris, mais j'ai appris depuis hier, mais quelle indignité, mon pyjamas. Alors moi, je suis innocent, et on me condamne, et Edouard Balladur, on le laisse libre, alors que lui aussi, il est innocent. Mais si, je vais vous dire une chose, si moi je suis innocent, je peux vous dire, pour l'avoir vu faire, qu'il est encore plus innocent que moi, lui. Et il ressort tout blanchi. Il y a vraiment, franchement, deux poids, deux Balladur.
Nicolas, je vous demande de vous arrêter.
Monsieur Balladur, bonjour. Alors cette affaire, hein, on en rappelle les grandes lignes. Vous étiez accusé d'avoir financé votre campagne de 95 via des rétrocommissions illégales versées en marge d'importants contrats d'armement. Et vous disiez que cet argent venait de la vente de produits dérivés.
Voilà, eh bien oui, je confirme des produits dérivés. Je vous l'avais bien dit. J'ai toujours eu cette ligne, que c'était des t-shirts.
Oula.
À l'époque, écoutez, je vais vous remémorer les choses de l'époque, pour vos auditeurs qui sont peut-être plus jeunes.
Ça va, oui.
C'était à l'époque la Balladur Mania.
Oui.
J'étais une sorte, comment vous dire, de Johnny Hallyday. Sauf que ma guitare était sous forme de plan de relance et mon blouson de cuir était une cravate marron. Voilà. Les jeunes voulaient tous, je me souviens à l'époque, revêtir des sweats capuches à mon effigie. Ils voulaient tous porter un parfum basé sur mon odeur et boire du café dans des mugs qui avaient la forme de ma tête, légèrement ovalisée. Monsieur Béliard, d'ailleurs, je suis sûr que vous étiez des nôtres. Hein, vous avez... Je sens en vous cette rock'n'roll attitude typique des jeunes baladuriens.
Franchement, il est balèze, le Edouard. Parce que les juges ont entendu ça et ils l'ont relaxé. Alors qu'en plus, rien que. Franchement, entre vous et moi, rien que d'oser fabriquer des t-shirts avec la tête de Balladur dessus, ça devait valoir la prison, franchement. Edouard, excusez-moi, Edouard, vous avez toujours été mon mentor. Un jour, vous m'expliquerez comment vous avez fait pour qu'il vous relâche, parce que moi, j'ai tout essayé. Vous êtes fort quand même.
Bah tiens, à ce sujet.
Merci, Nicolas.
Monsieur Sarkozy, dans votre interview dans Le Figaro cette semaine, vous aviez avancé un argument assez curieux. Vous dites, j'ai toujours dit qu'il fallait plus de diversité dans le recrutement des magistrats.
Oui.
J'ai rappelé un jour que j'étais moi-même un petit Français de sans mêlée. J'aimerais que ces Français de sans mêlée soient mieux représentés dans toutes les corporations. Est-ce cela qui justifierait une vengeance?
Sans mêler. Il ne faut pas s'en mêler dans les arguments. Alors écoutez,
regardez-les.
Non mais, observons, prenez un peu de hauteur. Regardez les juges. Il n'y a que des blancs. Et moi qui suis un sans mêlé, les blancs me condamnent. Voilà, donc là, c'est QMP, c'est que j'ai été victime. Mais j'étais, c'est à l'évidence, monsieur Boulot. Vous êtes d'accord, j'étais victime de racisme, vous êtes d'accord. Vous ne l'avez pas dit, mais je vous le fais dire, parce que ça mange de vous le faire dire. Moi, le fils d'immigré, vous savez, j'en parlais hier au collectif Adama Traoré.
Bon, oui, c'est la même chose.
On était entre nous, les Renois, les Rabzas et les Tismés. Mon frère Béliard me comprend, il est tismé lui aussi.
Tismé.
On se disait que la justice blanche est aux ordres de Babylone. Enfin, c'est Lilian Thuram qui a dit ça, mais je trouve que ça sonne bien. Vous savez, je suis issu d'un peuple qui a beaucoup souffert. Je suis issu d'un peuple qui ne peut plus souffrir.
déçu d'un peuple qui a beaucoup souffert.
Ah ouais, petit hommage à tonton David.
Nicolas Canteloup, un grand bravo évidemment. La revue de presse qu'a retrouvée sur Europe1.fr. Nicolas et Julie, saluons Philippe Cabrivière, Laurent Vassilion et Arnaud Demanche, les auteurs de Nicolas Canteloup, bien sûr. Philippe Vandel est avec nous, Culture Média, la matinée continue sur Europe 1. Bonjour.
Mais
Philippe.
Évidemment, bonjour Mathieu. Notre info média du jour, c'est une collection documentaire Fake News sur ordonnance et dans la collection La Fabrique du Mensonge. Elle s'interroge sur la prolifération de fausses infos et des théories complotistes. Comment expliquer ce phénomène? On en parle avec le présentateur Karim Rissouli et le producteur Félix Suffer-Lopez. Au sommaire également, c'est ce soir le nouveau show des Enfoirés, vous en avez parlé. Eh bien, nous serons avec la chanteuse Amel Ben qui participe et la productrice artistique de l'événement.
Il y aura Nicolas aussi.
Exactement. Et puis, elle a été surnommée la Castafiore par François Sagan, évidemment, qui aura Canteloup. Ce sera la productrice et écrivaine Michèle Halberstadt qui sort un nouvel ouvrage, Né quelque part.
Philippe Vandel, c'est Culture Média de 9h à 11h, la matinée qui continue. Je vais vous souhaiter un excellent week-end à l'écoute d'Europe 1. Bien sûr, c'est Pierre de Villeneuve qui vous réveille demain et après-demain. Lundi matin, je reviens en direct dès 7h. D'ici là, le monde aura changé. On va vous le raconter.